Cecilia Castro Salvadores, Ida Amelia Armarda, Arda, Arda, Arda. Parecida en Chile y en Chile. Clara Elena Cantero, Elisa del Carmen Escobar, Eliana María Espinosa, Rosa Elena Morales. Hay una mujer desaparecida, hay una mujer desaparecida. En Chile, en Chile, en Chile. And the junta knows, and the junta knows where she is, and the junta knows where they are hiding her. She's dying. Hay una mujer desaparecida. Desaparecida en Chile y en Chile. Missing
in Brazil,
missing
in Uruguay,
missing
Guatemala,
missing
El Salvador.
Nous allons parler du Costa Rica. Le Costa Rica est un petit pays en Amérique centrale qui se situe entre le Nicaragua et Panama. C'est un pays qui est souvent comparé à la Suisse pour ses aspects démocratiques, on va en parler un peu plus, et qui est aussi, évidemment, un des points forts du gouvernement nord-américain en Amérique centrale. Nous allons commencer par une interview de Marta Trejos, qui est une militante au Costa Rica et qui était en Europe cet été pour la conférence internationale Femmes et Santé qui a eu lieu à Amsterdam en juillet. En août a été enregistrée cette interview que nous allons passer en premier, dans laquelle elle explique les luttes qui sont menées au Costa Rica et le rôle des femmes dans ces luttes. Marta Trejos est sociologue, étudiante en droit, mère de deux enfants et militante à 100%. Nous allons écouter son interview. Que nous écouterons ce soir sont des musiques typiquement costaricaines et je m'excuse pour celles et ceux qui comprennent l'espagnol, c'est évident que c'est assez macho.
Enfants. Alors la crise nationale c'est très grande, aussi la situation centra-américaine, il y a beaucoup de pression sur le gouvernement de Costa Rica de la part des États-Unis pour aider la contre-révolution au Nicaragua et aussi toutes les négociations avec les FMI et ils demandent au gouvernement de couper tous les programmes de santé, d'éducation, de maisons, tous ces programmes-là qui sont les programmes populaires qui bénéficient la famille pauvre de nos pays. Alors maintenant c'est la femme qui a sur ses épaules tous les problèmes sociaux.
Comment l'expliquez-vous?
C'est beaucoup de gens qui viennent de la campagne parce qu'ils n'ont pas de terre pour cultiver. Et aussi, je crois que ça fait partie de la crise nationale parce que, bon, chez nous, l'âge pour être mère, c'est 14, 15 ans. Alors, il y a beaucoup de problèmes au sein de la famille parce que, bon, c'est normal de trouver une père qui viole ou qui abuse sexuellement de sa fille. Et aussi, des personnes qui sont autour de la famille. La famille comme ça n'existe plus maintenant parce que c'est plutôt la femme qui doit voir les enfants ou la grand-mère qui voit les enfants et la femme doit travailler pour nourrir les enfants aussi.
Mais quand même, tous les pères costaricains ne violent pas leurs filles.
Non, pas tous, mais c'est commun de les trouver ça dans la campagne et aussi au quartier où je travaille, dans des communautés pauvres des villes. Bon, Costa Rica, on dit qu'il avait un système de santé très bon, un des meilleurs de toute l'Amérique latine. Mais après les dernières négociations avec les FMI, et on veut privatiser le système de santé. Alors ça c'est très concret. Par exemple, nous avons fait une investigation autour de la qualité de service aux femmes qui allait avoir un bébé. Et alors, on a trouvé des choses incroyables. Par exemple, les 17% d'accouchements, on les fait par césarienne. Ça, c'est le normal. Mais on a trouvé un hôpital au Cartago où 60% d'accouchement était fait par césarien. Et on ne comprenait pas pourquoi. Et on a trouvé, par exemple, que c'est à ces hôpitaux où les étudiants de médecine vont faire les pratiques. Alors on utilise les femmes pour pratiquer. Une autre chose qui se passe, c'est que nous avons des médecines qui les États-Unis ou Canada nous donnent et qui sont des médecines très dangereuses. Par exemple, l'analgésique qu'on utilise maintenant pour tout, c'est la dipyrone, que c'est très dangereuse pour la santé de la femme. Aussi, autour de la contraception, on a beaucoup de problèmes parce qu'on donne la pilule à toutes les femmes et sans même les faire une examination médicale avant. Et ça, c'est la première méthode anticonceptive. Aussi, nous avons un problème avec la stérilisation. Dans les 1976, on a eu une campagne de stérilisation forcée. Une de chaque quatre femmes avait été stérilisée sans le savoir. Il y a eu un très grand mouvement contre ça. Et maintenant, si vous demandez d'être stérilisé, il y a beaucoup de gens, des femmes qui veulent être stérilisées parce qu'ils peuvent prendre, ils veulent couper d'avoir des enfants, ils ne peuvent pas prendre la pilule. Alors, maintenant, vous devez avoir 35 ans, 5 filles et un problème de santé et le permis de les marier. Alors, c'est impossible pour beaucoup de femmes de se faire stériliser. Mais ça, c'est l'aspect légal, la façade qu'on peut donner à la démocratie chez nous. Mais maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'après l'accouchement, il y a le médecin qui vient et demande aux femmes, vous voulez être stérilisées? Il y a beaucoup de femmes qui disent oui à ce moment-là, mais après, ils ne voulaient pas faire ça. Alors, on continue à faire la stérilisation aux femmes. On est beaucoup préoccupés parce qu'il y avait cette conférence à Mexique maintenant. C'est une conférence des populations avec tous les gouvernements du monde qui ça vient de finir maintenant au Mexique, où ils vont pousser au gouvernement pour contrôler la natalité dans les pays pauvres. Alors, ce sont les mêmes accords d'il y a 10 années, aux conférences de Bucarest, mais maintenant ils vont faire un programme plus efficace. Alors pour nous, ça va se traduire dans la stérilisation forcée. On n'a pas une loi qui permet l'avortement et ils vont essayer de couper toutes les opportunités de la femme avortée. Sur ça, il y a des problèmes parce que nous n'avons pas de clinique d'avortement.
C'est clandestin, l'avortement?
C'est tout à fait illégal. Alors, si vous voulez avorter, vous devez aller à un médecin qui va, ça va coûter 400 $. Alors, c'est impossible pour les femmes pauvres d'aller avorter dans ces conditions-là.
Parce qu'un salaire moyen, c'est combien au Costa Rica?
C'est 3 000 colones, ça c'est 100 $ par mois. Alors, c'est impossible. Alors, on fait des avortements dans les quartiers même avec n'importe quoi. Alors, il y a beaucoup de femmes qui meurent pour avorter dans ces conditions-là. Mm-hmm. Maintenant, on fait des groupes aux quartiers pauvres, des auto-examens. On a mis le diaphragme. On a dû les mettre clandestinement parce que, bon, le gouvernement, il ne donne pas cette possibilité aux femmes pour la contraception.
C'est-à-dire que si on a un diaphragme, on n'a pas le droit de le mettre?
Non, on peut le mettre, mais ça, c'est trop cher. Et on nous envoyait des diaphragmes, des cadeaux, et on devait payer beaucoup de taxes à la douane, alors c'était impossible de le mettre comme ça. Mais maintenant, il y a 200 femmes qui, depuis des années, sont en train d'utiliser le diaphragme. Et on veut faire un grand mouvement pour démontrer au gouvernement que c'est possible que les femmes qui ne savent pas lire ou écrire peuvent utiliser aussi le diaphragme. Que si le gouvernement ne le donne pas aux femmes, c'est parce qu'il ne veut pas.
Quelle est l'attitude du gouvernement face aux revendications des femmes?
Bon, maintenant, on dit que le gouvernement de Costa Rica, c'est le plus démocratique du monde, et que c'est comme la Suisse dans l'Amérique centrale et tout ça. Ça, c'est pas vrai. Maintenant, il y a beaucoup de femmes qui sont battues. Même de notre groupe, il y a des femmes qui sont battues par la police et doivent avorter après ça. Il y a des femmes qui sont continuellement emprisonnées seulement parce qu'ils demandent le droit d'avoir une maison digne ou seulement parce que nous voulons pas que le système de santé soit privatisé. Alors, et maintenant, c'est intéressant parce que la lutte, c'est les femmes qui sont en train de la faire. Les femmes ne sont pas seulement en train de lutter pour ses droits, mais aussi pour les droits de la famille et de la population entière. Alors, ça, c'est un phénomène très intéressant. Et il y a beaucoup de répression contre ces femmes. Nous travaillons dans 67 quartiers pauvres, et nous n'avons pas même de lieu où les faire. Alors, on organise des groupes de femmes qui se réunissent dans la maison d'une de ces femmes, qui sont des maisons très petites. Mais là, on fait de l'auto-examination. On est en train de travailler beaucoup autour de l'allaitement, parce que c'est très important pour nous. Il y a tous les multinationales qui viennent chez nous et qui ont voulu nous donner l'image que si vous achetez une canne de lait en poudre, ça va être meilleur que donner de l'allaitement. On a beaucoup de problèmes avec l'eau, que c'est un eau qui a beaucoup de bactéries et tout ça. L'utilisation des biberons, c'est très dangereux chez nous. Bon, parce que on doit mettre de l'eau qui n'est pas stérilisée, les biberons même pas, ils sont pas stérilisés. Et aussi, on dit qu'il y a 1 million des enfants au tiers-monde qui meurent pour des maladies qui sont transmises par les biberons. Alors on travaille beaucoup sur ça. Mmh.
Tout à l'heure que c'est principalement les femmes qui mènent les luttes au Costa Rica.
Les mouvements populaires maintenant c'est plutôt dirigé par des femmes. Par exemple, dans les dernières 5 années au Costa Rica, ce sont les femmes qui ont sorti dans la rue et demandé ces droits. Même s'il y a des organisations comme celui-là qui lutte pour des maisons où il y a des hommes et des femmes, 87% de la direction centrale de la lutte, ce sont des femmes. Et aussi au quartier, tu vois toutes les organisations qui se font contre les prix qui vont très haut de la chose plus commune pour à manger ou pour meilleur service de transport ou n'importe quoi. Ce sont les femmes qui sont en train de s'organiser pour ça. Alors pour nous, ça c'est très important.
Est-ce que des femmes de l'extérieur viennent vous aider?
Et non, c'est plutôt une lutte nationale, mais il y a des choses où c'est très bien que les femmes viennent. Par exemple, pour commencer le travail autour de la santé des femmes, et il y a des femmes, des dispensaires de femmes d'ici en Suisse qui sont venues chez nous, et c'est avec elles que nous avons commencé les groupes d'auto-examination. Mais dans la lutte, ce sont seulement des Costariciens qui participent.
Ces groupes, ils ont démarré quand?
Nous avons commencé à travailler depuis les 74. On a commencé avec beaucoup d'influence des mouvements féministes européens, mais quand nous sommes commencé à travailler vraiment avec la femme de notre pays, on a changé beaucoup parce que c'est tout à fait une autre réalité. On ne peut pas lutter seulement autour des choses qu'on connaît comme féministes. On doit prendre en compte toute la réalité sociale qui est autour des femmes. Et pour nous, maintenant, une chose féministe n'est pas seulement lutter autour des choses qui ont à voir avec la conception ou la stérilisation ou l'avortement, mais aussi pour tous les problèmes sociaux que les femmes ont.
Tormento.
Ay, Anita, ay, Anita, ábreme la puerta, Anita.
Oye, mi Anita, te estoy llamando. Anda, vamos a bailar este ritmo.
Ay, Anita, ay, Anita, ábreme la puerta, Anita.
Lindo es el día, linda es tu risa. La blancura de tu piel es igual a mi camisa. Anita, te estoy llamando.
Anita, tum, tum, tum.
Ábreme la puerta.
Anita, tum, tum, tum.
Anda y vamos a bailar.
Anita, tum, tum, tum.
A bailar este ritmo.
Anita, tum, tum, tum.
Anita, te estoy llamando.
Anita, tum, tum, tum.
Anita,
tum, tum, tum.
Dime qué te pasa, Anita.
Alain, pour continuer cette émission sur le Costa Rica, j'aimerais tout d'abord resituer dans quelles activités milite Marta Trejos que nous venons d'entendre. Donc elle fait partie, ainsi que de beaucoup d'autres femmes, d'un mouvement qui s'appelle le COPAN, qui est une organisation qui regroupe quelques 10 000 familles, une organisation qui est capable de faire descendre 20 000 personnes dans la rue pour le 1er mai, et qui lutte essentiellement sur les revendications des couches les plus pauvres, c'est-à-dire le droit à l'accès au logement, à la nourriture, aux soins. Ce groupe est également lié à une organisation féministe qui s'appelle CFEMINA et à un groupe antinucléaire. Ces derniers mois, il y avait une marge de négociation possible avec le gouvernement, en particulier sur la question du logement, qui est un des enjeux les plus forts sur lesquels le COPAN milite déjà depuis 3-4 ans. Il y avait eu des accords qui avaient été passés il y a une année. Mais cet été, à la moitié du mois d'août, il y a eu un remaniement ministériel au Costa Rica, chose dont on n'a absolument pas entendu parler ici en Europe, dans lequel tous les ministres ont démissionné en bloc, résistant au fait des pressions qui étaient faites par l'ambassade nord-américaine et des pressions qui étaient faites par l'extrême droite. Le remaniement ministériel a consisté à faire rentrer des ministres qui sont beaucoup plus de droite que les précédents. En particulier, se distingue au département de la sécurité une personne qui est fondateur du mouvement d'extrême droite fasciste au Costa Rica qui s'appelle Costa Rica Libre. C'est un petit peu comme si en Suisse c'était quelqu'un d'Action Nationale qui reprenait le département de justice et police. Bien évidemment, ça a entraîné un changement. D'une part, ça facilite la politique contre le Nicaragua. Et d'autre part, à l'intérieur, ça a entraîné une répression beaucoup plus forte sur les organisations populaires et en particulier sur le COPAN.
Me gusta mirar tus ojos que aún no aprenden a mentir. Me gusta mirar tu boca hecha para sonreír. Me gusta mirar tu pelo cuando te lo enreda el viento. Me gusta sentir tus manos y tu aliento. Me gusta escuchar tu voz y su acento y las palabras que son ruidos de tus pensamientos.
Bon, la musique est bien évidemment pas du tout adaptée au propos. Elle illustre parfaitement bien l'image qu'on peut se faire ici du Costa Rica, pays totalement idyllique, bananier, soleil, plage magnifique, Suisse de l'Amérique centrale.
¿Cómo se puede llamar? ¿Cómo te puedo decir? Sentir tus pasos cuando te estoy esperando. Me gusta sentir que un beso puede dejarnos temblando. Me gusta cuando me abrazas y me siento tan pequeña. Me gusta saber qué piensas y qué sueñas. Todo lo tuyo me gusta. Nada es más y nada es menos. Desde que estás en mi vida, todo me parece bueno. ¿Cómo te puede llamar? ¿Cómo te puedo decir lo que no puedo explicar? Solo diciendo que te quiero y hasta este momento.
Vous écoutez Radio Pleine Lune sur Radio Zone. Vous pouvez nous atteindre au 40 51 41.
Mi-août, Marta Trejos rentre au Costa Rica. Elle s'attendait à être arrêtée à l'aéroport parce que très souvent c'est à ces moments-là qu'ils profitent pour attraper les dirigeants. Mais non, elle est bien passée la frontière, mais elle a trouvé à ce moment-là 14 personnes en tôle. Il venait d'y avoir ce changement ministériel et il venait d'y avoir une lutte, toujours sur le logement, dans un des villes qui est proche de San José et qui s'appelle Alajuela. À Alajuela, il y a un comité de personnes organisées et inscrites dans les services sociaux dans l'attente d'un logement qui avait obtenu de la municipalité un accord dans lequel une certaine somme et un certain lopin devaient être employés pour leur construire des maisons. Eh bien, au moment d'entrer dans ces maisons, ce ne sont pas eux qui sont rentrés, mais les personnes qui sont proches des tendances qui sont actuellement au gouvernement, exemple type de corruption. Suite à cet échec, les militants du COPAN étaient allés, sans armes, tout à fait pacifiquement, à la municipalité, dans l'intention de rester dans les locaux jusqu'à ce qu'une explication leur soit donnée sur ces lopins qui ne leur avaient pas été accordés. Et comme il y avait eu ce changement ministériel, la brigade anti-émeute est tout de suite arrivée. Elle a embarqué tout le monde, tabassage, torture, 14 personnes au clou, avec des inculpations de association illégale, détention d'explosifs, résistance aggravée, enfin tout ce dont on peut inculper quelqu'un, et le risque au procès d'écoper d'une peine de 20 à 25 ans de prison. Depuis, heureusement, ils sont ressortis, les hommes au bout de 15 jours, les femmes au bout d'un mois. Situation absolument typique et qui montre une fois de plus que les dirigeantes se trouvaient parmi les femmes. Depuis, que s'est-il passé ? Bien, l'organisation se trouve absolument visée par la police. Ils se sont fait confisquer tout leur matériel sonore. Il y a plusieurs fois eu des irruptions dans leurs appartements chez eux. Des menaces de mort continuelles. Donc une situation extrêmement tendue et en tout cas la conviction d'une part qu'ils ne peuvent pas arrêter parce qu'ils n'ont toujours rien obtenu et d'autre part qu'ils doivent trouver des moyens d'action dans lesquels la brigade anti-émeute ne peut pas intervenir contre eux et ne peut pas leur dire qu'ils sont en train de menacer la paix, parce que voilà, c'est ça le slogan du Costa Rica, c'est l'exemple type de la paix, le pays qui n'a pas d'armée, mais qui en fait a des milices, et le pays qui ne fait pas la guerre, mais en fait c'est très souvent depuis le territoire costaricain que des attaques sont menées contre le Nicaragua.
Thank you. It's a mighty long road that these four hands have hold. My poor feet have traveled a hard, dusty road. Out of your dust bowl and westward we rode. Your deserts were hot and your mountains were cold.
Alors il est reparti bredouille et il est revenu avec toute une équipe armée de mitraillettes qui est rentrée carrément dans l'église et qui a essayé d'arrêter le militant salvadorien, plus quelques têtes qu'ils ont déjà repérées depuis longtemps, qu'on appelle les 22, c'est les communistes, pour essayer de les ramasser. Bon, bien sûr, il y a eu là une bagarre assez épouvantable, des arrestations. Ça, c'était un peu, c'est un peu chose courante pour le Costa Rica là-bas. Mais ce qui était fascinant, c'est de voir comment les femmes se sont battues. Il y en a eu, entre autres, une qui s'est rendue célèbre pour avoir attrapé avec son parapluie un flic et l'avoir étranglé avec le manche et qui, depuis, se promène à toutes les manifestations armée de son parapluie. C'est une jeune femme de 17 ans.
De tu amor cayó en mi alma y en un mar de sábanas blancas te pedí ámame, fuiste labios y amor, fuiste cuerpo y ardor, yo estaba ardiendo. Fuiste lluvia menuda y viento, te pedí, ámame, ah, ah, ámame, como lo hiciste ayer.
Il y aurait mille histoires comme ça à raconter sur ces luttes au Costa Rica, ces femmes auxquelles je me suis beaucoup attachée. Mais malheureusement, les choses sont devenues plutôt dramatiques ces dernières semaines et j'aimerais mettre le paquet là-dessus aussi pour essayer de lever l'attention de toutes celles, tous ceux qui nous écoutent ce soir. Parce que vu que la négociation est totalement rompue avec le gouvernement et que le gouvernement essaie de totalement les criminaliser en les déclarant associations illégales, ils se trouvent dans une situation extrêmement difficile. Et ils ont choisi un mode de lutte qui est plutôt dur et ils ont commencé une grève de la faim ce lundi, le 22 octobre, à San José de Costa Rica. Il y avait au départ 250 personnes qui s'étaient annoncées pour faire cette grève de la faim. Parmi ces personnes, il devait y avoir au moins 80% de femmes, des femmes également mères de famille. Et il y en a 200 qui n'ont pas passé les examens médicaux d'être suffisamment en bonne santé pour pouvoir faire une grève de la faim, pour qu'on puisse dire après que si tu es mort, c'est bien parce que tu étais en bonne santé et que tu faisais cette grève de la faim et pas parce que tu étais malade. Bon, alors de ceux qui sont restés, ont commencé un premier groupe de 10 personnes ce lundi. S'ils se font arrêter et chaque semaine, si le gouvernement ne fait pas un geste pour recommencer à discuter avec cette organisation dans le cadre de leur lutte sur le logement, un nouveau groupe commencera à faire la grève de la faim. Parmi ces personnes, il y a 4 femmes. Je n'ai pas encore la liste exacte de toutes les personnes parce que les communications sont malheureusement assez lentes, mais je sais déjà qu'il y a 4 femmes parmi ce premier groupe qui a commencé. L'une d'entre elles s'appelle Cecilia Madriz Mora. C'est sans doute une des femmes qui va avoir besoin de beaucoup de soutien international ces prochains mois, face à son procès, face à la situation, puisqu'elle était une des femmes qui a été arrêtée le 16 août lors de cette occupation pacifique de la municipalité de Alajuela. Elle n'a même pas été arrêtée sur les lieux, mais tout à fait ailleurs, donc visiblement il l'attendait, il la cherchait, il la voulait. Elle est un personnage particulièrement populaire au Costa Rica. Elle est d'origine indienne et elle a une capacité de parler dans les foules et de les mettre dans des états pas possibles qui est vraiment assez fascinante, ce qui lui vaut d'être dirigeante au niveau national de cette organisation, d'être responsable de plus de 10 quartiers alors que la plupart des autres dirigeants sont responsables d'un quartier ou de 2 au grand maximum. C'est dire qu'elle a un ascendant qui est très très fort sur toutes les couches populaires et toutes ces femmes qui sont dans ces organisations.
Cariño mío, ¿qué será de mí cuando en verano te tengas que ir a otro lugar con ese amor que antes creíste amar y este teléfono se quede sin sonar? Cariño mío, no podrás llamar. Cariño mío, este amor no va como quisiéramos, nuestro amor no va. Me dejas y te olvidas de llevarte parte de mi soledad y ya no lo podemos arreglar. Te equivocaste, yo lo he de pagar. Pero tenemos que nadar contracorriente, pues ahora lucharemos para poder olvidar. Y sé que el día de mañana yo sabré lo que es perder, aunque quisiera verte junto a mí al final. Cariño mío, no me dejes, amor mío, no me dejes. Cariño mío, ¿qué será de mí cuando las canas empiecen a salir? Cuando me mire en el espejo y me vea envejecer y no haya nadie que me quiera ya tener, con los tuyos y yo sola aquí.
ti. Cariño mío, no puedo pensar en la mañana.
Donc, pour revenir à ces femmes, il y en a encore trois autres dont j'ai les noms. Georgina, qui était aussi dans la prise du 16 août, et deux étudiantes, Anna Fales et Rosa Elena. Ces quatre femmes sont en grève de la faim depuis lundi. Les femmes du groupe féministe de Ces Femina, celles dont Marta Trejos parlait tout à l'heure dans cette interview, qui ces derniers temps avaient réussi des choses assez ouvertes et qui leur avaient permis de devenir assez connues, de devenir un nom relativement de notoriété publique. Elles avaient organisé, entre autres, un séminaire sur les femmes à l'université qui avait duré une semaine et dans le cadre de laquelle elles avaient invité toutes sortes de femmes à venir parler de toutes sortes de problèmes concernant les femmes au Costa Rica, et ça leur avait donné vraiment pas mal de poids. Et bien, j'imagine qu'aujourd'hui, elles doivent être pratiquement toutes totalement occupées par ces luttes qui sont en train de se passer, ce rapport de force assez extrême qu'il y a en ce moment entre ces organisations populaires et l'État. Et en particulier, elle s'occupe bien sûr de soutenir les femmes qui sont engagées, les femmes qui sont dans cette procédure, qui attendent ce procès. Les familles des femmes qui, quand elles sont arrêtées ou quand elles sont en train de faire la grève de la faim, leurs enfants, les besoins financiers qu'ont ces familles. Donc c'est vraiment des charges qui sont assez importantes quand on connaît l'échelle de cette organisation. Alors, Radio Pleine Lune, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Pleine Lune, la radio des femmes qui bougent. Et pour revenir au Costa Rica, eh bien, de quoi ont-elles besoin maintenant ces femmes si on veut faire un effort de solidarité ici? Bon, tout d'abord, c'est de faire connaître cette lutte, parce qu'il y a un problème énorme avec l'information pour essayer de faire que cette chose se sache. Bien sûr, beaucoup de journaux essayent de ne pas parler des grèves de la faim, comme beaucoup de journaux suisses n'ont pas parlé des grèves de la faim qu'il y a eu au Maroc et qui ont commencé après les augmentations des prix de la bouffe. Bien qu'il y avait eu plusieurs morts, mais il a jusqu'aux grèves de l'IRA, si la presse en a parlé, c'est bien parce qu'il y avait eu déjà une dizaine de morts. Donc, c'est peut-être l'effort principal, c'est d'essayer de faire connaître cette lutte de manière à essayer de crever l'isolation dans laquelle cette organisation se trouve au Costa Rica. Parce que si ça se sait, le gouvernement sera relativement plus obligé de rentrer en dialogue avec ces femmes, avec cette organisation, vu la façon dont ils sont considérés en Europe et veulent être considérés dans le monde entier comme État démocratique. Là, bien sûr, rentrent toutes les questions de rapport de force qu'il y a actuellement en Amérique centrale.
Yo solo a ti te quiero. Detrás del baile yo te espero. choqué. Solo soy un picaflor. Yo no sé qué voy a hacer. Te pido amor que no les creas, porque yo solo a ti te quiero. Detrás de
Comme vous le voyez, quand ils chantent, ces hommes, ils peuvent sacrément faire patte douce. Pourtant, le Costa Rica, c'est bien un de ces pays d'Amérique centrale. C'est un pays super macho. Pour resituer un petit peu dans le contexte de l'Amérique centrale et de l'Amérique latine, il faut quand même dire que le Costa Rica, c'est pas l'exemple le plus horrible, dans le sens que c'est pas une dictature ou un pays qui est contrôlé par 14 familles, qui contrôle absolument toutes les terres et tout. C'est un pays dans lequel il y a des couches sociales qui ressemblent un petit peu plus à ce qu'on peut vivre chez nous. Et dans ce sens-là aussi, leur difficulté de lutter ressemble plus à la nôtre que ce qui peut se passer au Salvador actuellement ou ce qui s'est passé au Nicaragua. Au Costa Rica, il y a une couche sociale qui est la classe moyenne d'ouvriers ou de gens qui ont obtenu un petit job et qui ont une petite maison, qui est extrêmement importante, ce qui n'est pas le cas de ces autres pays comme le Nicaragua ou le Salvador. Et cette couche est un frein énorme à tout changement sociaux possible. Ça se passe essentiellement dans les villes. Maintenant, à l'extérieur, il y a des situations plus tendues, comme par exemple dans les bananeraies. Il y a des luttes qui sont assez importantes et qui, bon, là, c'est vraiment comme dans le reste de l'Amérique centrale. C'est bon, ces gens qui n'ont absolument aucune terre pour cultiver de la nourriture pour eux-mêmes et pour leurs enfants et qui travaillent pour une multinationale, Del Monte ou une autre, pour envoyer des quantités de bananes absolument incroyables en Europe et en Amérique du Nord.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes una amiga que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien
amada. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amiga, hermana, y luz alumbrando la ruta del alma de la que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Ciudades, charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa. Distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto.
Comme je voudrais leur dire à ces femmes au Costa Rica, si elles pouvaient m'écouter, comme je les aime et comme je suis avec elles et comme nous sommes toutes avec elles ici dans leur lutte. Pour terminer, j'aimerais vous demander si vous pouvez envoyer des télégrammes, des lettres de soutien adressées au président de la République ou à l'Assemblée législative ou encore au ministère public, San José, Costa Rica, avec des copies à l'association Solidarité avec le Costa Rica, 16 rue de la Canonnière, 1202 Genève. Je répète encore une fois l'adresse et je vous assure que dans les prochaines semaines, pendant les informations sur Radio Pleine Lune, vous entendrez encore parler de cette histoire, parce que il y a de fortes chances que ce soit difficile pour elles. Elles peuvent se faire arrêter. Il se peut que ce soit nécessaire que nous fassions ici aussi une action publique pour faire un peu que cette chose se sache et qu'on en parle. Alors restez à l'écoute de Radio Pleine Lune, la radio qui des femmes qui bougent. Je vous parlais ce soir pour Solidarité avec le Costa Rica, 16 rue de la Canonnière, 1202 Genève.
Se me escapan los recuerdos de las manos.